Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
L'année 1975 fut une année mémorable. Le premier ordinateur à usage familial se répand aux États-Unis. L'ONU proclame 1975 Année internationale de la femme. Nous avions 20 ans ou presque. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. L'informatique envahit toutes les maisons et son usage reste un obstacle pour la plupart d'entre nous. Quant à la condition de la femme, les luttes engagées se poursuivent avec force et conviction. Aujourd'hui, nous vous proposons une deuxième approche de ce thème, avec le choix d'autres nouvelles. Ponctuées de nouveaux chants venus d'Afrique, dans la continuité de l'émission précédente. Et nous vous invitons à redécouvrir les Pink Floyd avec Wish You Were Here.
L'escalator hisse Josette hors du métro régional. Elle s'arrête stupéfaite face au parvis de la Défense. Elle a l'impression d'arriver dans une ville du futur, peut-être en Amérique, une ville moderne comme celle dessinée sur les comics que Robert collectionne. De grandes tours qui lui donnent le vertige rien qu'à les regarder d'en bas, et un bâtiment gigantesque, le CNIT, comme une immense voile de béton posée à terre. Centre des nouvelles industries et technologies, ça claque. Le palais des expositions abrite le salon des arts ménagers. Elle va y retrouver Nicole, sa copine d'atelier. Sur le quai de la ligne 1 du métro, elle a longuement observé les affiches du salon. Quelque chose la chiffonne dans cette ménagère transformée en robot, un balai à la main. Il était temps qu'elle vienne, demain 9 mars, c'est le dernier jour d'ouverture. Josette sourit. Elle savoure par avance ces quelques heures volées à son quotidien si plat. Elle a déposé Gilles, son bébé, chez sa mère, place Pereire, et sa Corinne de 7 ans est partie jouer chez une camarade de classe. Sans enfant, la liberté retrouvée, pour un bref laps de temps. Il y a 5 ans, elle est déjà venue ici avec son mari. Il lui avait offert un moulin à café électrique dernier cri en cadeau pour leur anniversaire de mariage. Aujourd'hui, en pénétrant sous la haute voûte de cette cathédrale de la consommation, elle apprécie d'être seule. Elle ira à son rythme, vers ce qui l'intéresse, et puis rejoindra sa copine. Il y a déjà beaucoup de monde. Les stands se succèdent avec leur cortège de commerciaux en costard-cravate. Que des hommes pour vanter les mérites des aspirateurs et des cuisinières. Savent-ils seulement s'en servir encore quand ils rentrent chez eux, ou délèguent-ils cette tâche à leurs femmes eux aussi? Josette pense avoir de la chance. Robert descend la poubelle chaque jour et il prépare le café le week-end. Il ne s'estime pas compétent pour s'occuper des enfants et est incapable de cuire correctement quoi que ce soit. Alors Josette assure tout le quotidien, en plus de sa journée de travail à l'atelier d'électronique. Elle aurait bien aimé valoriser son CAP de couture, mais son mariage à 19 ans, son déménagement dans le 75, puis très vite un premier enfant, la vie a décidé pour elle de son avenir. En dehors des badauds, il y a bien quelques femmes sur les stands commerciaux. Faire valoir de leurs collègues masculins, elles paraissent toutes sorties de la même page de magazine, maquillées, moulées dans un tailleur et juchées sur des talons hauts. Elles aussi, le soir, descendent de ces perchoirs pour enfiler un tablier et récurer la salle de bain. Josette s'arrête devant une machine à laver la vaisselle. S'il n'a rien de mieux à faire, Robert essuie parfois la vaisselle le dimanche midi. Mais seulement le dimanche midi. La cuisine est tellement petite qu'elle ne voit pas comment on pourrait y installer cette merveille de technologie. Et puis de toute façon, c'est trop cher pour eux. Elle est bien heureuse d'avoir une machine à laver le linge dans la salle de bain. Tiens, voilà qui tombe à pic. Distribution d'échantillons de lessive dans l'allée principale. Josette s'empresse d'y glaner sa part. « Tu ne peux pas le louper. Je t'attendrai près du stand Moulinex », avait dit Nicole. Effectivement, difficile de rater l'exposition du géant de l'électroménager. Josette repère la dernière version du robot-mari, incontournable dans la panoplie d'une parfaite femme d'intérieur. Dans sa cuisine, le robot figure en bonne place, rangé dans sa boîte bleue. Il lui sert au quotidien. Elle aperçoit son amie, partie prenante d'une discussion fort animée. Les pétroleuses sont invitées à la fête. Ces militantes féministes se sont regroupées près de l'équipementier, emblème de l'asservissement féminin. « Non, Moulinex ne libère pas la femme, » lit-elle sur le tract que Nicole lui glisse en douce. « Nous ne voulons ni le retour au bon vieux temps de la lessiveuse et des femmes parquées à vie entre quatre murs du foyer, ni continuer comme aujourd'hui, esclaves déguisées en fées du logis, accumulant les gadgets ménagers de plus en plus coûteux, » lit-elle encore. « Alors, Josette, tu as réfléchi à ma proposition? Tu rejoins notre lutte ?» Elle s'attendait à pareille question. Souvent, à la pause méridienne, elles échangent sur leur vie. Elles partagent les mêmes soucis d'inégalité salariale. Elles rêvent ensemble d'un monde plus juste pour elles et pour leurs filles. Nicole en a trois. « On va manifester à la Bastille, » continue la militante. « Tu viens ?» Josette secoue la tête et baisse les yeux. « Je suis désolée, je ne peux pas. Robert, c'est un bon gars, mais il ne comprendrait pas. Et puis, il faut que je récupère les enfants et que je m'en occupe ce soir. C'est pas facile, tu sais. » Un pauvre sourire accompagne cet aveu d'impuissance. Haussant les épaules, Nicole emboîte le pas des pétroleuses qui sortent du palais des expositions en scandant « Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine !»
Papa Pic et Maman Cou. Papa a toujours beaucoup aimé maman. J'avais 9 ans. Nous vivions dans le quartier de Belleville, dans un petit appartement situé au 5e étage, numéro 7 de la rue Fernand Reynaud. Le soir, de ma chambre, j'entendais les ronronnements réguliers de la machine à coudre de maman et la piqueuse de papa. Ils s'étaient connus grâce aux annonces du chasseur français et étaient mariés depuis 9 ans. Dans la journée, j'allais à l'école. Le matin, papa partait en même temps que moi avec plein de vêtements dans un gros sac. Et maman restait dans l'appartement pour que celui-ci soit bien propre et qu'elle puisse prendre de l'avance sur ses pièces de couture. La machine de papa était plus moderne et plus rapide que la sienne. Le dimanche, je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre avant 9 heures. Je n'ai jamais su pourquoi. Mais papa était très souriant pour le petit déjeuner. Et maman avait les yeux rouges. Après le petit déjeuner, après la douche, après que maman ait bien rangé la cuisine, nous allions à pied chez les parents de papa pour déjeuner. Maman regardait ses chaussures. Papa se retournait à chaque fois que nous croisions une femme et me donnait une petite tape sur l'épaule en me faisant un clin d'œil. Un jour, papa est revenu plus tôt, sans vêtements à confectionner. Il a expliqué à maman que sur le sentier, il n'avait plus rien à lui donner. Mais que ce n'était pas grave, puisqu'il travaillait dans la journée, gagnait bien sa vie comme démonstrateur d'aspirateur et que sa moustache plaisait bien aux clients. Maman a voulu trouver un emploi, mais papa lui a interdit. Et comme il l'aime beaucoup, pour qu'elle ne s'ennuie pas, il lui a promis de lui offrir un ordinateur domestique. Papa avait appris que cela existait en regardant le journal télévisé dans son café préféré. Il aimait ce lieu où il pouvait retrouver les copains et discuter d'un nuage de fumée, des voitures et des filles. Je le sais car il me l'a raconté. Papa aimait trop maman. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne voulait pas qu'elle sorte sans lui. Il avait peur de se la faire chiper. C'est vrai qu'elle était jolie. Mais il faisait tout pour elle. Régulièrement, il lui apportait des fleurs. L'ordinateur a coûté vraiment cher. Une vraie ruine, disait-il. Il voulait qu'elle puisse s'occuper dans la journée. À vrai dire, l'ordinateur était trop compliqué à utiliser. Ni papa, ni maman ne savaient s'en servir. Il est resté dans un coin, auprès des cartons d'emballage, à prendre la poussière. Papa, parfois, ne réfléchissait pas trop. Un ordinateur, à l'époque, c'était bien plus compliqué qu'un aspirateur. Papa est mort depuis plus de 10 ans. Et j'ai déménagé le jour de mes 59 ans, en Bretagne, dans une maison posée sur une falaise. Nous vivons là, maman, Luison, ma compagne et moi. Luison ne s'ennuie pas dans sa chambre. C'est une jolie chambre, avec une fenêtre donnant sur la mer. La fenêtre, par sécurité, ne s'ouvre pas. Je ne veux pas qu'elle tombe du haut de la falaise. Sa chambre est très confortable et je refais chaque année la tapisserie. Actuellement, elle est verte avec des roseaux pour motifs. Elle a un beau bureau sur lequel elle peut utiliser son ordinateur. Plus rien à voir avec celui de maman. Elle peut faire plein de choses avec, à condition qu'elle respecte ce que je lui ai autorisé. Heureusement, elle est obéissante. Et elle sait que je peux contrôler ce qu'elle fait avec le disque dur miroir que j'ai installé dans ma chambre. Elle sait aussi que je peux me fâcher très fort. Nous faisons chambre à part. Comme cela, je suis sûr de ne pas avoir d'enfant. Sa compagnie me suffit pour aller se promener le long des chemins sur la côte. Maman ne nous accompagne pas. Elle a des difficultés pour marcher. Cela lui ferait du bien pourtant, car elle ne voit pas beaucoup la lumière. J'ai installé sa chambre dans le sous-sol et la lumière entre par un petit soupirail. J'ai obéi aux dernières volontés de papa. J'ai promis qu'elle resterait dans le logement en permanence, mais je ne veux pas qu'elle aille dans la cuisine. Je préfère les plats de Luison. Maman continue à coudre, moi je pique à la place de papa, Luison plie les vêtements et les vend sur Internet. J'ai fait la connaissance de Luison sur un site de rencontre. Je l'ai invité 3 fois. À chaque visite, j'ai eu peur que maman fasse du bruit. Sur le chat, je ne lui avais jamais parlé de maman. Malheureusement, lors de sa 4e visite, maman est sortie de sa chambre. J'avais oublié de fermer le bureau. Il m'arrive d'être étourdi. Il m'a fallu prendre une grande décision. Luison devait rester dans la maison et ne plus rentrer chez elle. Par chance, elle avait oublié son téléphone chez elle. J'ai dû être très persuasif pour qu'elle accepte de rester définitivement. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous savez tout. Je regrette pour maman et Luison. J'aurais dû déverrouiller leur porte lorsque la tempête a commencé. Il me faut rentrer désormais. La violente vague qui a envahi la maison a tout détruit dans toutes les pièces. Et il me faut nettoyer, ranger, contacter l'assurance. Vous remercierez les sauveteurs. Sans eux, je serais mort également. Papa pique et maman coup. Papa pique et maman coup. Maman coup, maman coup. Papa pique, papa pique. Bye.
Le poète est comparable au magicien. Comme lui, il use de ses enchantements afin de régler certainement une antique querelle avec le monde. Il tire depuis les coulisses les ficelles au bout desquelles s'agitent des marionnettes. Il met en scène, selon sa fantaisie, le spectacle qu'il donne. Il mène l'histoire jusqu'au dénouement qu'il a voulu pour elle. Mais pas plus que le magicien, le poète n'est dupe des pouvoirs auxquels il prétend et qu'on lui prête. Tout n'est encore qu'illusion. Philippe Forest, dans Shakespeare.
« 1975, année de la femme. Devenez secrétaire, et après vous épouserez le patron, déclarait son père à Isobel et ses sœurs comme seule ambition pour ses filles. En 1975, à l'aube de ses 20 ans, Isobel, la jeune fille aux yeux clairs, cherchait avec entêtement sa place au sein de sa famille. Elle manquait d'espace et rêvait d'infini. Maintenue à l'étroit par un père à la voix rude, la voix du commandement d'un homme habitué à se faire obéir de ses soldats et de ses proches, Isobel fréquentait peu assidûment, il faut l'avouer, l'université d'art et de lettres à Rennes. Pourtant, en 1973 et encore mineure, Isobel avait rencontré un étudiant en médecine de Montpellier, dont l'intensité et la lumière qui émanait de lui l'avaient subjuguée dès le premier regard. Les jeunes gens prirent l'habitude de s'écrire et finirent par se déclarer leurs sentiments. Mariée très vite, Isobel s'éloigna de sa famille avec joie et découvrit le sud de la France haut en couleurs et en rigolades. Radieuse, bientôt maman, elle vivait intensément chaque instant. Mais par une nuit probablement sans lune, l'amour de sa vie arrêta sa course contre un mur. Accident. Elle se réfugia dans un monde parallèle où plus rien ne pouvait l'atteindre, elle et son enfant encore en gestation. Ils se chuchotaient autour d'elle. « Elle est jeune, elle s'en remettra. » Elle l'entendait bien au regard qui voulait la rassurer, elle ou eux-mêmes. De retour chez ses parents, Isobel restait là à faire quelques pas, de la chaise au lit, du lit à la salle de bain, et puis au repas qu'elle ne préparait pas. Deux valises dans la chambre étant ses seules possessions et souvenirs de sa vie d'avant. Désœuvrée, elle attendait. Elle attendait on ne sait quoi. Son esprit se remplissait des images du bonheur enfui, mais son cœur se vidait peu à peu. Un jour, une dame âgée vint la visiter, tout de noir vêtue, revendiquant par cette couleur un deuil lointain. « Tu sais, ma petite, moi j'ai perdu mon mari et mes deux fils à la guerre. Toi, ne te plains pas, au moins tu manges à ta faim. » C'est curieux comme tout le monde s'entêtait à lui parler de manger, manger pour deux. Comme si manger allait atténuer la douleur. Quelle drôle d'idée. Isobel retournait dans sa tête les paroles de son antique visiteuse. Mais le malheur des uns n'a jamais effacé celui des autres, se disait-elle. Une chape de tristesse s'abattait alors sur ses épaules. Ses amis l'invitaient parfois, mais si elle riait trop fort avec leur homme, Isobel remarquait bien les regards soupçonneux des épouses, jalouses de leur bien. Évidemment, la jeune femme semblait trop jeune, trop jolie, trop veuve. Un vrai danger. Plus tard, tout en élevant son enfant, Isobel reprit ses études. Il lui fallait un diplôme et le journalisme l'attirait. Un jour, survient un entretien d'embauche avec un patron de presse locale. Ses efforts allaient enfin aboutir, espérait-elle, confiante. « Vous postulez donc pour le poste de journaliste, mademoiselle. Madame, me dites-vous. »« Pas grave, pense le rédacteur en chef. » Il la regarde. Quels yeux innocents. Un brin de tristesse dans le regard. Sûrement un chagrin d'amour à cet âge. Bon, elle me parle de ses diplômes, de ses attentes, de ses idées pour le journal. Mais je m'en tape, moi, de son esprit. C'est les appâts cachés que j'essaye de deviner. Elle a de jolis robes, les courbes sont sensuelles. Elle s'habille un peu vieillotte, mais peu importe. J'arriverai bien à la mettre dans mon plumard. Et quoi, elle insiste. Je vois de l'espoir dans son regard. Hein? Je lis dans son CV qu'elle est célibataire avec enfant. Mais je rêve là. Cours toujours, ma petite. À un poste de responsabilité, je prendrai un homme. Et puis on n'est pas l'assistance publique ici. Allez, du balai.
Je vais tout de même organiser un dîner aux chandelles pour lui laisser croire que... Et puis hop, dans mon lit. Harassée à toujours courir entre l'école et la recherche d'emploi, la jeune Isobel se sent isolée, avec un brin de sentiment d'injustice, à toujours se battre dans ce monde d'hommes. Même ses beaux parents soupirent. Elle est débordée. Comme son gosse est mal élevé, elle lui passe tout. Elle est toujours partie à droite et à gauche, telle une écervelée. Sûr, ce môme serait mieux encadré chez nous, dans un milieu stable. On va le lui dire à cet incapable. C'est notre petit-fils, après tout. Alors, Isobel espace les visites et s'étourdit de voyages pour oublier le manque d'un seul être. Elle survit. En 2025, les aiguilles du temps ont tourné pour Isobel. S'estompent les figures du passé. Certes, aujourd'hui, Isobel n'a plus 20 ans, mais elle pense tout bas, au regard oblique des bonnes gens vers ce qui dérange. Les lois ne changent pas vraiment les mentalités, se dit-elle. Son prochain écrit sera « Tant qu'il y aura des hommes ». Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on par?
Année de la femme, année de la femme, je t'en ficherais des années de la femme. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ? Égalité, tu parles. C'est même pas fichu de planter un clou, ça pleure au secours de qu'il faut changer d'ampoule. Ah, mais madame, il va falloir choisir. Si vous êtes si égales que ça, faudra plus trop compter sur nous et apprendre à vous débrouiller, hein. Tu vas voir comment elles vont vite déchanter ces grognasses quand on sera plus là à leur service. Et voilà que la mienne parle d'aller travailler au dehors, elle aussi. T'es pas bien là, bichonner à la maison, tranquille, à te prélasser pendant que je m'échine à l'usine? Rien à foutre de la journée que de passer un coup de serpillère vite fait, surtout maintenant que les enfants vont à l'école? Dépenser mon argent dans les réunions Tupperware, passer ces après-midi dans la cuisine, avoir des cafés avec les copines en bigoudi, faire les commères pendant que le ragoût mijote tout seul sur la gazinière. Elle a la belle vie, madame, pendant que Bibi trime toute l'année, levée à 5h du matin, pas rentrée avant 7h du soir. Tu veux gagner ton argent? Ton argent à toi? Eh bien, dans ce cas, fini les petits cadeaux, fini la galanterie. Le restaurant, les sorties, 50-50, chacun pour sa pomme. Et tu veux savoir? Tant mieux. Tant mieux. Ça me fera faire des économies. Je vais pouvoir enfin acheter la voiture qui me faisait tellement envie. Et à mon nom, la bagnole, hein? Ah, tu veux aller travailler dehors? Eh bien, vas-y donc. Mais compte pas sur moi pour torcher les mioches et faire la vaisselle à ta place. Moi, j'ai rien demandé. Qu'elle vienne pas me dire après le soir qu'elle est fatiguée, quand il me prend une petite envie. Avec moi, ça marchera pas. C'est quand même mieux quand chacun reste à sa place, vous me direz pas le contraire. Quant à ta bonne femme dehors toute la sainte journée, le soir tu rentres, t'as rien de fait, la maison est dégueulasse. Reste qu'à vivre dans le bazar. Faut être entre trois plombes pour dîner et encore c'est à peine mangeable. Les gosses sont pas lavés, ils sont agités. Tu parles d'un plaisir de rentrer chez soi dans des conditions pareilles. Après une dure journée de boulot, j'estime qu'on a le droit d'être mieux traité que ça quand même. Et puis, j'aurai l'air de quoi devant les potes? Hein? Qu'est-ce qu'ils diraient les collègues? Que j'ai pas les moyens d'entretenir ma petite famille, que je gagne pas assez, que je dois mettre ma femme au turbin pour faire tourner le ménage,
Pas question. Tu vas voir, j'ai ma petite idée. Je vais lui coller un nouveau petit dans le tiroir. Ça va la calmer pour quelque temps, c'est moi qui te le dis. Rien de tel pour lui faire oublier ses sornettes que de la remettre à pouponner. Même si elle dit qu'elle n'en veut pas d'autre, ben elle n'aura pas le choix. En attendant, ce soir, petit match de foot avec une bonne bière. J'ai bien mérité un peu de tranquillité. D'abord, les informations sur TF1. Alors, quoi de neuf? Ah! Encore la Simone qui vient ramener sa grande gueule dans le poste. Qu'est-ce qu'elle va nous inventer cette fois? Non! La salope!
Vous avez entendu des nouvelles de Elisabeth Lemerdy, Yves Hamon, Elisabeth de Villedon, lues par les autrices et l'auteur, ainsi que de Pascal Audouard, lues par Bernard Ziller. Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Ziller. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.